c'est l'histoire d'un maigre, et l'histoire ne ment pas. Car en plus d'être au sommet de la chaîne alimentaire, devant le T-Rex, un mégalodon c'est très très gros, très très méchant, et ça a même la capacité de nager dans 50 cm d'eau. Bref, rien ne peut rien contre une telle force de la nature. Rien ? Vraiment ? Ce n'est pas le point de vue de Jonas, l'anagramme de Jason, qui lui aussi est une force de la nature. Et les mégalodons, il les bouffe au petit-déj avec ses œufs brouillés. Un jour, après ces milliers de séries de tractions dans les conduits d'aération, car c'est meilleur pour la circulation, on vient le trouver, on a besoin de lui parce que Megalodons are back. Et cette fois, il se déplace en troupeau.
Mais bon, ça va, hein.
Jonas s'en va régler les problèmes dans la base marine où des scientifiques travaillent à rendre l'eau moins trouble. Et c'est en tentant de rendre l'eau trouble moins trouble qu'une suractivité aquatique à 8000 mètres de profondeur dans la fosse vient les troubler. Alors, comme dans le 1, Jonas explique aux scientifiques qu'ils sont débiles. Et pour leur prouver, il enfile une combinaison de G.I. Joe et part avec ses collègues dans la fosse, au calme, pour régler le problème d'eau trouble et boucher la fosse avec un gros bouchon. Mais bon, apparemment, il n'y en a pas un pour relever l'autre car c'était une mauvaise idée. Ils ont énervé le plus grand meg que quiconque n'a jamais vu, qui en croque 2-3 au passage avant de remonter en Thaïlande pour un buffet à volonté avec deux de ses potes. Bref, le gang de requins fout le dawa. Heureusement, Jonas a la solution face aux méchants gros requins. Il va les retourner, leur raconter une histoire et ils vont s'endormir. Et tout ira bien, dans le meilleur des mondes. Voilà l'histoire que l'on s'était imaginée après s'être fait des films avec la BA du dernier Ben Whishley.
Ça aurait été bien.
Dans notre épisode 116. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai, douille ou pas douille, nos avis et ceux de la presse? C'est parti pour le match retour de En eau très trouble.
DJ, kick that shit.
Ça te fait mal quand on te tire dessus?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération?
Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de techniques.
Ce sera l'avant-dernière fois que vous entendez
cette cloche.
Ce gong, aïe 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 aïe, l'avant-dernier match retour, c'est maintenant et bonjour à toutes et toutes et bienvenue dans ce match retour dans nos très troubles. Le dernier film de Ben Whishley. Qui est la suite du premier film sorti en 2018, En eau trouble. Après vous avoir exposé nos attentes autour de sa bande-annonce, sont avec moi autour de la table la team de la saison 4, vous les connaissez, qui vont revenir en avis autour de ce film. C'est mon gang de requins aux dents acérées. Kevin est là. Kevin est là. Pardon.
Les Kevin qui donnent envie.
Buongiorno, je suis Megalodon Corleone.
C'est vrai. Tu étais le requin qui...
Le requin de la famille.
À qui on ne peut rien refuser.
Ne peut rien refuser.
Megalodon Corleone, voilà. C'était Kevin.
Ah, c'était ça l'intro, vous avez fait des jeux de mots sur Megalodon.
Bon, fais pas genre, c'est toi qui a monté l'épisode.
Oui, mais j'ai oublié.
D'ailleurs, oui, c'était le premier épisode.
Mais il l'écoutait pas, en fait.
Premier épisode que je touche pas du tout. Bah, merci,
ah
William.
Ouais,
de
ça sous-traite,
monté.
Hein.
Ça sous-traite. Il n'y a plus le temps, là. Ça sous-traite. Il faut. Merci à William d'avoir monté cet épisode.
Oh, c'était avec plaisir.
Clémence est là, Clémence.
Salut.
T'étais quoi comme.
J'sais plus.
Comme Shark, toi, j'ai oublié.
J'ai oublié.
Et merde, on a tous oublié.
Requin amnésique.
Requin.
Bah, moi, il me rappelle qui était.
C'était qui?
Megalodon.
Non, mais Clémence.
Ah, j'ai oublié. Je crois que c'était un truc très con.
J'ai oublié.
Et William.
Ah,
là,
j'étais le requin. Requin navet.
Ah, c'est pour ça, ça nous a pas marqué.
Bah, tu pourtant, sais, le requin pourtant... qui va dans les tornades et dans le sable et dans la neige.
Attends,
le requin navet.
Requin navet, c'est plus ou moins
sur Live Shark.
On a vu sur ce film, non?
Et William aussi est là. Et oui, William sort.
Ouh, enfin... la qualité supérieure, n'est-ce
mais
pas?
Mais dis donc, la pub là.
T'étais payé ou?
Le cassoulet, excellent.
Ah, oui, sponsor bah... par Cuisiner là et William sort.
Il faut une troisième marque. Hein.
Bonjour Romain et bonjour les colocs.
Tiens, quoi comme, tu serais quoi comme requin, toi?
Moi, le requin avec les ampoules de Lorenzini sur le pif là qui s'endort et tout, ça me va. Hein. Requin dormeur, c'est bien.
Requin dormeur, ça marche.
Parce que c'est comme ça que ça s'appelle, vous en avez parlé dans l'épisode, mais les. Les ampoules qu'ils ont sur le nez, les capteurs
c'est
de...
C'est pas des requins.
En fait, les requins, vous parliez de quand tu leur touches le nez et tout, ils se mettent sur le dos. En fait, c'est ça, ça s'appelle les ampoules de Lorenzini. Et quand tu les caresses, ça leur envoie des informations dans le cerveau qui les rend genre BA, quoi, ça les drogue. C'est pour ça que tu peux les mettre sur le dos, que t'as les yeux qui se retournent et tout. C'est,
voilà. Ok, ok.
D'accord. Hein.
Oui, je suis un gros fan de Rocker.
Ça veut dire qu'ils ont des grosses ampoules Lorenzini, les mégalodons, là.
Ouais.
Très très grosses.
Ils y ont pas pensé.
Il suffit de lui caresser le nez.
Je t'attame qu'il fait une petite tapote sur le nez, là.
Dommage qu'il lui lit pas l'histoire, quoi. Voilà, bon, bah, vous avez bien compris que notre histoire imaginée était quand même assez loin de la réalité. Et on va d'ailleurs se le résumer, ce film, en vrai. Mais on va vous prévenir hein, que vous êtes dans, vous nagez en eau trouble.
Très trouble.
L'eau
des
spoils.
Ouais.
On va spoiler ce film en même temps.
Il n'y a pas beaucoup de choses à spoiler.
En même temps, c'est des gros requins qui mangent des gens. Voilà. Oui. Et à la fin, ils gagnent. Waouh.
Waouh.
Désolé.
Alors, c'est bon là, tu l'as fait, hein, on peut passer.
On va se résumer ce film et vous le savez.
On va essayer
choisir.
Parce qu'il y a beaucoup de choses.
C'est très complet comme, ouais. Comme histoire.
Qui sert à rien et du coup c'est un peu dur de savoir s'il faut le résumer ou pas.
Et comment ça marche pour.
Il y a un tel engagement écologique dans cette histoire.
Oui, on sent qu'il y a quand même une volonté de,
ah bon
de préserver la, bio, okay. La biodiversité.
On va en parler.
Et comment on détermine qui résume, rappelez-moi.
La roue de la chance.
Il s'est chauffé celui-là.
La roue de la chance.
Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Get the body, let's go. Sera chargé de résumer en eau très trouble. À ma droite, Kevin.
Ouais, c'est génial. À la suite du premier épisode.
Ça part direct, on a plus le time, les gars.
Professionnel.
À la suite de en eau trouble, nous découvrons dans en eau très trouble Jason Statham, qui est devenu une espèce d'activiste écolo
vénère,
qui, très vénère, qui va sur les chalutiers ou les je sais pas ce que c'est, mais ça doit être des trucs comme ça,
ouais.
Pour péter la gueule aux méchants marins qui polluent et qui tuent les animaux. Donc, c'est son nouveau métier et il habite régulièrement dans une espèce de base sous-marine d'études des animaux de la faille. De
oui, en fait, c'est la même parce
c'est
qu'il
la même.
Il l'appelle Manawan.
Ouais,
et je crois que c'était Manawan dans le premier.
Dans le premier, c'est la même.
Voilà,
en fait, on n'avait pas fait le lien dans la BA, mais c'est la même
c'est
base.
C'est la même base. Et donc, dans cette base, il fabrique des exosquelettes surpuissants pour pouvoir explorer The Trench. La trench étant la faille qui se trouve sous le thermofrost, mon cul, qui est une espèce de nuage moche dans la mer que quand tu le passes en dessous, c'est préhistorique. Et donc pendant 45 minutes, ils vont se balader là-dedans et ne rien faire jusqu'à découvrir qu'il y a malheureusement une autre base de méchants. Et ces méchants,
ils explorent en fait, ils explorent plusieurs zones différentes et dans des zones inexplorées, ils se rendent compte qu'il y a déjà des mecs qui ont installé une mine.
Et des méchants qui veulent utiliser un espèce de rocher spécial qui
du
est
minerai,
là-bas, quoi.
Ils extraient du minerai
pour se faire plein d'argent.
De tunas, oui.
Suite à quoi, il y a un combat qui à la suite de ce combat, un trou.
Oui, parce que t'as pas dit, c'est qu'ils ont un problème avec leur sous-marin, ils sont obligés de le quitter, donc
ils sautent
dans les combis.
Voilà, ils mettent leur combi, ils trouvent les méchants, ils se battent, le combat entraîne, après une séance d'apnée assez incroyable d'ailleurs.
On en reparlera.
Un trou dans le thermoplast.
En fait quand il découvre la base, l'un des méchants pour essayer de les tuer avant qu'ils découvrent quoi que ce soit, fait exploser, enfin il y a une énorme explosion, parce que c'était là où ils voulaient trouver la roche, et puis en fait ça crée un énorme trou dans le permafrost.
Et à partir de ce trou vont s'échapper des mégalodons, une pieuvre géante et des espèces de lézards dinosaures
qui respirent sous l'eau apparemment.
Oui, mais qui respirent aussi sur terre. Ça n'a pas de sens.
On ne sait pas. Et du coup, une fois que ces animaux se sont échappés, Jason Statham va tenter avec ses amis de l'arrêter, tandis que les méchants qui sont aussi les chefs de Manawan,
oui, parce qu'en fait c'est ça, ils
vont tenter de ne faire, on ne sait pas, on ne comprend pas ce qu'ils veulent faire.
On comprend pas trop leurs enjeux.
Mais si, ils veulent les arrêter parce qu'ils ont les infos et qu'ils savent. En fait, c'est des méchants déguisés en gentils et du coup, on sait que.
Comme on sait qu'ils veulent faire de la thune, ils veulent les tuer pour pas que ça se sache.
Suite à quoi, Jason Statham et ses amis se retrouvent à Fun Island, un endroit super cool qui a l'air de se trouver en Asie du Sud, mais dans quel pays on ne sait pas, ce n'est pas dit.
Ça ressemble à la Thaïlande.
Et cette plage se fait attaquer par les mégalodons et la pieuvre géante qui ne sert à rien mais qui vient faire un petit tour quand même. Suite à quoi ils se battent, combat, et puis à la fin ils gagnent.
Et il y a un requin qui était un peu domestiqué, un mégalodon un peu domestiqué.
Oh, j'avais oublié, oui, il y a un requin gentil qui répond aux ultrasons, qui s'appelle Tiki.
Ouais, il a un stylo 4 couleurs et quand il appuie dessus.
Il y avait pip.
Ça fait je suis gentil. Et elle repart, elle. Parce que
parce qu'elle est gentille.
Ouais, enceinte, coup, apparemment. Enfin, peut-être, on imagine, oui. Pour aller accoucher d'un autre très, très trouble.
Du coup, tu te rends compte que les scientifiques dans ce film sont quand même des gros cons. Ouais, globalement.
Globalement, hein, oui, globalement.
Globalement, tout le monde est un peu con dans ce film, hein, de manière générale. Hein, faut...
Voilà le résumé de la vraie réalité réelle.
Oui, c'était bien, merci.
De rien.
On a passé
le résumé ou le film ?
Ah bah ça, on va tout de suite savoir déjà.
Il y a l'image du film, le résumé.
Dans nos avis, à la suite du Douillepadouille.
Le Douillepadouille.
C'était une douille. C'était pas une douille.
Le Douillepadouille, on compare la BA qu'on s'était faite dans l'épisode d'avant avec le film qu'on a vu. Alors, est-ce que du coup, c'était un bon produit ? Est-ce que cette BA nous a vendu une douille ou pas une douille ? Là est l'exercice justement de cette rubrique. Clémence, douille ou pas douille ?
Pois !
Ah ouais, pois, ça... douille ou pas
douille ?
C'est une
douille ! C'est une douille !
C'est une
douille !
Je suis deg !
T'es meg, tu veux dire ?
Oui, je suis meg ! Parce que j'étais hypée, j'avais bien aimé le premier qui était bon délire, un bon nanar. En plus, là, c'était Ben Whitley. Et en fait...
On retrouve rien de son cinéma.
Au secours, ouais. L'énergie de la BA, je l'ai pas vraiment retrouvée dans le film. Ou alors très, très, très diluée dans une eau très, 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 très trouble. Et... Bon, je vous dirais de quand même des petits trucs sympatoches. J'aime bien Jason, mais voilà, vraiment, c'est pas génial.
William, douille ou pas douille ?
Alors, j'étais pas avec vous lors de la bande-annonce, mais pour moi, c'est pas une douille parce que je m'attendais à un navet, ça a été un navet, donc voilà.
Le fameux requin navet. Il était donc là. Kevin, douille ou pas douille ?
Bah, douille, parce que moi, on savait tous que ça allait être un navet, enfin, au moins, on voulait un nanar plutôt, et c'est comme le premier en était un, et qu'il était quand même très amusant, le premier Meg, parce que c'était un film très nul, mais très rigolo. Là, je trouve que c'est un film qui est très chiant. Et je me suis beaucoup ennuyé et moi je voulais plus rire. Voilà. Douille.
Ah, douille.
Et toi, Romain ?
Comment vous dire ça ?
Ça a l'air touchy.
Il joue la comédie et tout en plus. Oh là là.
Non, c'est en vrai. en vrai, si, douille. Douille. Mais douille au pluriel, parce que moi, il y a plein de douilles déjà qui m'énervent. Déjà, pour commencer, et elles sont passées où nos parenthèses ? Ils ont décidé de changer l'affiche en cours de route. Du coup, on n'a plus en eau avec le trait.
Ah bon ? Bah, l'apparition de titre, tu veux dire ?
Bah non, mais même sur les affiches et tout. Ah, les premières affiches, du coup, nous, on avait fait la blague tout le long de l'épisode en disant que c'était entre parenthèses. En fait, il n'y a plus. Déjà, première douille, ça m'énerve. Hein, parce que, du coup, cette blague est caduque. Et ensuite, l'autre douille dans le film, Where is Barracuda ? Il n'y a pas la musique de la BA dans le film. On était dégoûtés parce qu'on l'a vu avec Clémence, Kevin, Johanna et Clément. Et on était en mode, Where is Barracuda ? Pas de barracuda, hein, et puis douille, parce que c'est vrai que la BA nous vendait quand même un film, enfin du moins on s'attendait à quelque chose de plus
fun,
plus fun, plus cool, et c'est vrai que il y a beaucoup de temps mort, et c'est un peu un copier-coller du premier, quoi.
Il faut le dire, c'est con, quoi.
Mais la surprise en moins. Bah après c'est con, mais voilà, j'ai pas non plus passé un gros moment ultra dégueulasse devant le film.
On en parle de toute
façon. C'est vraiment con, c'est vraiment... Mais ouais, bah, tout de suite, hein, plongeons à corps perdu dans cette eau. Et oui, dernière douille, c'est vrai, l'eau n'est pas très trouble.
Oui, on voit plutôt très bien.
Très clair. Très clair.
On voit bien, ouais.
Je vois très bien, ouais. On les voit venir, les requins.
Ouais, très bien. Mais voilà, le film est con, quoi. Mais
tu peux commencer.
Vas-y.
Bah, en fait, je trouve que le côté con, pour moi, c'est pas le défaut, parce qu'effectivement, le premier aussi est très con, et si c'est drôle, on s'en fiche, vu que c'est un nanar. Mais vraiment, le gros défaut, c'est le rythme. C'est trop long, on s'ennuie. Enfin, on n'est pas censé s'ennuyer dans ce genre de film, en fait, et la BA donnait pas cette impression. Donc, vraiment, ça tombe un peu à plat au niveau de ses effets, au niveau des créatures, parce qu'on était censé en avoir plus, une surenchère. Et en fait, les nouveaux mecs, déjà, on n'a vraiment pas vraiment des rapports d'échelle.
Ouais.
C'est un peu incohérent à ce niveau-là. Donc, vraiment, le côté immense du Meg, en fait, à part dans la scène de début à côté du T-Rex, sinon, on le ressent pas vraiment. L'octopus, là. Mais
alors lui,
c'est vraiment un figurant, celui-là, mais de seconde zone.
Celui-là.
On voit ses tentacules qui sortent de l'eau, qui chopent vite fait des gens, mais vraiment, on voit aucun danger, en fait, avec ce truc. Et puis en plus, c'est même pas sanglant, je trouve, ce genre de film, et c'est dommage, parce que voilà, on a envie.
Et puis en plus, ils nous avaient déjà annoncé la fin de ce combat-là dans le premier, parce que dans le premier, on en voyait déjà un poulpe.
Ah bon ?
Et qui perdait déjà. Oui, en fait, dans le tout premier film, il y a une séquence où ils doivent sauver leurs amis qui ont passé le permafrost pour la première fois, qui se sont fait attaquer par le requin. Et la mère de la fille chinoise qui est dans le deuxième, là, elle est dans une espèce de petite capsule. Et puis il y a un poulpe qui commence à la choper, elle va mourir. En fait, le poulpe, il meurt par le requin, ce qui veut dire, mais je connais déjà le résultat de ce...
On savait
ce...
déjà que c'était un loser, le poulpe.
Bah oui, on t'a déjà vu perdre dans le premier film.
Ils ont voulu rajouter des petites attractions, quoi.
Et les petits dinos, là, alors, je laisserai en reparler, notamment toi, Romain, vu que t'es un spécialiste.
Déjà, je les connais pas, ceux-là.
Vraiment, mais ceux-là, ils m'ont fait chier, quoi. Je veux dire, bon, ah si, ils amènent des petits trucs drôles, des fois, parce qu'ils sont là, ils en veulent, hein. Ils viennent jusqu'au cockpit de l'hélicoptère, et ils font des petits jumpscares, mais sinon... C'est... Franchement, non, ça m'a un peu ennuyé.
C'est un peu les dinos à collerette, mais du film.
Ouais.
Quoi.
Juste pour finir, j'ai préféré peut-être plus la première partie du film où l'humour est un peu plus amené par le fait qu'ils ont un meg domestique et que le gars est complètement timbré. Leur départ vers les profondeurs, et j'avoue que moi j'aime bien ça, ces petits moments de suspense dans les profondeurs, est-ce qu'ils vont survivre et tout, mais par contre toute la fin, enfin, vraiment j'en avais rien à foutre. Et le seul truc que je retiendrai sinon de positif, c'est que Jason Statham, on sent qu'il s'amuse quand même dans ce genre de film, et c'est marrant parce qu'il essaye de développer un jeu qui est un peu affectueux avec la petite chinoise et tout. C'est un peu comme dans Fast and Furious, finalement ça commence à devenir un peu la famille et tout, et il y a cet aspect là que je trouve sympathique.
Et je trouve le film vide. Enfin, where is the money? Enfin, je sais pas, quand ils arrivent sur l'île, là, notamment Fun Island, je trouve ça vide. On dirait vraiment, c'est cheap, quoi. Tu fais, mais where is the, où le décor? Les figurants, vraiment figurent, quoi.
Ils sont 15.
C'est clair, ils sont 15. Fun Island, c'est pas si ouf. Et comme tu l'as dit vite fait, là, Clément, c'est vrai qu'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas. Le massacre, il n'est pas là. Donc. Je sais pas, croquez-les-moi, ces gens-là. Là. On voit le. C'est comme dans un dessin animé, quoi. Ils les gobent. Mais non, moi, je veux les voir se faire déchiqueter,
oui,
en fait.
Là où dans le premier, t'avais eu, par exemple, le mec qui avait été bouffé sur la baleine, sur le corps de la baleine, où t'avais vraiment les traces dedans, avec le bras qui restait, où le mec est dans le ballon, qui explose. Enfin, il y avait eu des vraies tentatives de rendre les morts percutantes et ludiques, presque, pour le spectateur. Alors que là, non. En effet, c'est vraiment. On va même pas essayer de faire l'effort de rendre ça spectaculaire. Quoi. Ce qu'on veut rendre spectaculaire, finalement, c'est Statham. Alors que t'en étais dit, mais non, Statham, il sera spectaculaire quoi qu'il arrive si le monstre est spectaculaire. Et là, il l'est pas.
Et puis, petit problème sur les paliers de décompression. Et enfin, je veux dire, si. Ok, je vais chercher de la
c'est
cohérence.
C'est ma scène préférée.
Je vais chercher de la cohérence dans un film de Mégalodon. Mais bon. Y a
non,
un
mais
moment,
là, pour moi, cette scène, c'est un vrai problème.
Le méchant, déjà, c'est une espèce de mélange entre Wario et Alexandre Astier. qu'on aurait mixé, il est vraiment à fond quoi, mais c'est moi je suis le méchant.
Et limite il a un accent.
Il remonte avec une bouée de 8
mètres.
Il est
très méchant.
C'est énorme.
Il est très méchant.
Il remonte en combi exosquelette et avec une bouée. Et il y a quand même un passage là où Jason Statham à 8000 mètres de profondeur au fin fond de la fosse, là où la pression normalement tu mets pas un pied dehors quoi. Sors et nage.
Mais il y a une explication, parce que c'est scientifique.
Ouais, si tu mets scientifique, Romain, t'as pas suivi.
Si tu mets assez d'air dans tes sinus, c'est bon.
C'est si t'arrives à enlever, soi-disant, c'est si t'arrives à enlever tout l'air de ton corps, ça pose pas de problème. Ouais, d'accord. Ouais.
Et du coup, il y a un plan magnifique où on le voit serrer des narines en mode. Ça, là, les narines.
Je vais résister.
Parce qu'ils sont bloqués, ils doivent sortir pour ouvrir une porte, mais par l'extérieur, donc ils doivent aller nager. Évidemment, il n'y a que lui qui s'est bloqué ses sinus, quoi, trop fort.
Non, mais en fait, c'est un peu ça le problème. Le vrai problème du film, c'est qu'il est même pas. Parce que moi, que Jason Statham fasse des choses qui semblent incroyables et qui physiquement soient possibles, tu vois, je donne un autre exemple avec un autre film de Statham, tiens, tu vois, dans Transporters 2, il doit décrocher une bombe qui est sous le châssis de sa bagnole, il fait un tonneau, il y a un crochet de grue dans les airs et il arrive à toucher la bombe avec le crochet de grue. Tu te dis, c'est complètement con, mais physiquement, c'est possible. Il y a un monde dans lequel. Cette cascade est faisable, tu vois.
Ah, mon cousin Jean-Michel te dirait que...
Voilà, lui, Jean-Michel, il te dirait que c'est...
Ah oui,
c'est
génial.
Voilà.
Bah, bien sûr. Qu'il l'a déjà fait, en plus.
Dans ce film-là, il y a trop de choses où tu te dis, mais ça respecte même pas les lois de la physique. Complètement con. Par exemple, on parlait des dinos, là. C'est des poissons ou c'est des mammifères, ces trucs-là? Parce que
les amphibiens, non, on dirait.
Oui, mais...
On sait pas trop.
Oui, mais les amphibiens, ils doivent...
Mais je crois qu'il existe aucun reptile qui peut vivre sous l'eau, hein, totalement.
Non, en fait, soit t'es un... Genre, type grenouille qui fait un peu les deux, mais en fait c'est un mammifère qui respire de l'air et qui peut rester pendant une durée limitée dans l'eau. Soit t'es un poisson et tu peux pas vivre sur terre, donc en fait leur machin là, ça fait des milliers d'années qu'ils sont sous l'eau, donc c'est des putains de poissons, c'est pas des mammifères, parce que les mammifères ça a besoin de respirer. Donc en fait tu comprends rien.
C'était juste pour ajouter, c'est comme le poulpe, ils se sont dit bon bah quelle bestiole on va foutre
Sauf que ça pour moi tu vois c'est un vrai problème, parce que tout de suite moi c'est le truc, je me dis bah c'est complètement con. C'est comme Jason Statham qui peut sortir dehors à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres sous la surface de l'eau. C'est-à-dire, bah non, en fait, parce qu'il n'y a pas qu'un problème d'air, il y a un problème de poids. Tes organes internes, ils sont chargés d'air. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
C'est de la connerie.
C'est un peu comme les mêmes trucs que quand on te fait des monstres géants dans la ville qui attaquent. C'est-à-dire, oui, bah, en fait, à certains moments, cette bestiole-là, le propre poids de ses organes, dès qu'il tombe, il devrait mourir. Tu vois. Enfin, c'est des trucs qui, moi, en fait, vraiment me dérangent tout de suite parce que j'y crois
pas.
Sauf
s'il y a des robots géants. Et là, on l'accepte. Là, c'est bien.
Et donc, ouais, en fait, moi, le film, il me pose un vrai problème parce que. Autant le premier, tu sentais qu'ils ont changé de direction pendant la réalisation. C'est-à-dire que tu as une première partie qui se veut très sérieuse. Les personnages sont très sérieux. Tu leur donnes des traumatismes, tu leur donnes des objectifs. Et pendant le cours du film, ils ont dû se dire « Oh là, putain, on est en train de partir dans un début de nanar. Allons-y à fond et jouons le jeu. Mais essayons d'être quand même soigneux dans ce qu'on propose. » Tu vois. Là, c'est vraiment « Ah, voilà les critiques qu'on nous a fait sur le premier film. Arrêtez de vous prendre au sérieux. Restez sur le côté nanar, ça nous a plu. » Et en fait, ils ont mis tous les potards à fond, mais sans se dire un minimum, ah, essayons d'écrire des personnages qui se tiennent un peu la route.
Après, c'est rigolo
là,
parce que c'est nul.
Là, vraiment, non, mais là, c'est même pas drôle.
C'est même pas ça. C'est, au-delà de ça, moi, je suis d'accord avec toi, mais moi, je trouve qu'en plus, le truc, c'est que même cinématographiquement, c'est une catastrophe.
Voilà, en fait, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a même pas, ils ont même pas essayé d'être soigneux un minimum dans quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est mal écrit, c'est mal réalisé, c'est mal monté, et surtout, les méchants. Quels sont les enjeux? En fait, vraiment, c'est.
Mais c'est des méchants.
Ils nous ont même pas proposé de mort satisfaisante. C'est-à-dire que le moustachu, il se fait gober vite fait. Sa patronne, dont on entend parler 2 secondes et demie, qui soi-disant est la grande méchante, elle a même pas eu le droit de mourir, genre face caméra. Il a fait mourir derrière un hélicoptère dans les hautes herbes. On l'entend juste crier. C'est feignant, quoi. Tous les personnages qui étaient à peu près cohérents dans le premier, ils les ont rendus complètement débiles pour justifier le fait que le film devient débile. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font mourir la mère de la petite fille. Parce que c'était la caution intellectuelle sérieuse du premier film. Bah, si tu la laisses là, tout le film perd en fait son équilibre. Donc ils te la font mourir, ils te la remplacent par son frère complètement débile qui nage avec un mégalodon en se disant bah c'est mon chien de compagnie, je peux le gérer. Son meilleur ami, la Mac, qui était à peu près sérieux et un petit peu drôle, il est juste devenu débile. Et
il a quand même appris à se battre et à nager.
Voilà, et palme de la débilité du film, c'est-à-dire que le Renoir.
Je croyais que c'était lui.
Non, je parlais de Mac, c'est celui qui est joué par.
Le néo-zélandais là. Voilà. Je sais pas son nom.
Et comble de la débilité, c'est-à-dire que le Renoir, qui était la somme de tous les clichés dans le premier film, ils se sont dit hey, et si on renversait tous les clichés qu'on avait fait sur lui dans le premier, et si on en faisait un cliché mais inversé. Et du coup, bah, ils le font apprendre à nager, à se battre comme un ninja, et ça n'a absolument aucun putain de sens. Ce film est nul, c'est-à-dire que même les morts des. Je prends l'exemple.
T'es trop vénère.
Ah, en fait, ce film.
J'ai l'impression que t'es en train de monter en.
Il parle plus, il est en colère là.
C'est juste que je trouve dommage d'avoir un tel budget et de pouvoir faire quelque chose de fun comme dans le premier et de se planter à ce point. Prenons l'exemple de la traîtresse de Manawan. C'est la copine du moustachu méchant là. Même elle meurt de façon nulle. Regardez, ça c'est une vitre, aucun requin peut la traverser. Boum, un requin la traverse et la mange. Qu'est-ce que c'est feignant comme écriture. Moi je trouve ça vraiment nul. Il coûte combien ce film? 150? 200 millions?
Je sais pas, tu veux que je regarde?
Bah regardons, mais je pense que ça doit être aux alentours de ce budget-là, tu vois. Vraiment, vous avez que ça à nous proposer? Parce que autant un film qui a, allez, on va dire, quelques dizaines de millions, type un Sharknado.
112 millions.
Voilà, 112 millions. T'as un Sharknado, t'as peut-être quelques dizaines de millions de dollars et ils arrivent à faire un truc qui est limite plus fun.
Non,
et pourtant,
c'est de la merde, Sharknado.
Ah non, 130 millions.
130 millions. Et pourtant, c'est ce que j'allais dire, ça reste de la merde. C'est-à-dire que ça pue le cynisme à plein nez et là, c'est vraiment un cynisme à 120 millions de dollars et je trouve que c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Tu vois.
Bah, qu'est-ce qu'on dit après ça?
Non, mais.
C'était un coup de gueule, on l'a pas vu venir.
C'est un coup de gueule, oui.
Ouais, je pensais pas être aussi énervé, ça m'a monté en pression en face de.
Allez, respire, c'est bon, c'est fini.
Je peux pas, mec.
Prends ton souffle, Jason.
Je peux pas, je suis à 8000 mètres. Non, je vis mes sinus.
Masse tes sinus.
En vrai, t'as raison, mais moi, ce que je trouve un truc qui m'a gêné aussi, c'est que. Moi, je veux bien qu'un film décide d'être un nanar assumé, ok, mais dans ce cas-là, si tu veux être un nanar assumé, fais le bien. C'est-à-dire, mets un peu de piquant dans ton écriture, mets des petits trucs un petit peu sale gosse, quoi. Parce qu'en fait, quand tu regardes juste l'écriture du film, c'est vraiment une écriture basique de trucs américains un peu chiants qu'on a vu 15 000 fois. Le mec qui veut protéger la fille qui est un peu trop maligne pour sa propre sécurité. Les grands méchants qui veulent détruire la planète, qui associé à une catastrophe naturelle, puis avec un black qui fait des blagues, c'est que les clichés des films américains. où ils se sont même pas dit viens, on essaie de s'en amuser en faisant vraiment des blagues autour, quoi.
Ils ont quand même à un moment rajouté une tasse de thé pour la méchante.
Et oui, une tasse. Oui, d'accord,
ça,
mais
c'est drôle.
Mais je me dis, dans ce cas-là, si tu veux faire un truc qui se moque de ces codes-là en mode en connivence avec le public et on rigole tous ensemble, bah va jusqu'au bout, même dans l'écriture de tes persos, fais des trucs marrants. Moi, que Jason Statham il remette de l'air dans ses sinus et qu'il résiste à de la pression, moi je suis prêt à l'accepter. Si le reste du film décide d'être aussi con, mais aussi con avec une espèce de propos de et venez les gars, on s'en fout, on s'amuse, un peu comme faisaient les Fast and Furious du 5 au 7, quoi. De venez les gars, on rigole, quoi. C'est de la grosse marde. Alors que là, je trouve que le film est un peu le cul entre deux chaises. D'un côté, tu vois qu'ils ont voulu faire un nanar assumé, et de l'autre côté, t'as l'impression qu'ils se sont dit il faut qu'on fasse un blockbuster qui va plaire au public chinois. Ils ont l'habitude de voir des films américains coproduits comme ça, tu vois. Parce qu'il y a aussi ce truc-là de la coproduction chinoise, de il faut qu'il y ait des héros, des valeurs qui vont bien avec ce que nous on veut faire passer pour. Enfin,
c'est pour ça que c'est peut-être pas gore aussi, je pense.
Oui, et peut-être qu'ils ont aussi la contrainte, effectivement, des Chinois qui veulent que ça soit un minimum crédible, on va dire.
Quand tu regardes les blockbusters coproduits par la Chine, c'est un peu le même schéma, quoi. C'est hyper lissé, hyper grosse valeur, hyper tout ça.
Il y a un petit côté propagande derrière qui se profile.
Il y a un très gros côté propagande, je trouve.
On est peut-être écouté, Kevin.
Mais,
attention.
Mais c'est pas grave. Au pire, si vous me voyez pas la prochaine fois, ce ne sera pas parce que le podcast s'arrête, mais parce que j'aurais été assassiné par le
gouvernement
chinois.
Mais c'est vrai, il y a un truc. Les coprods chinoises, franchement, regardez-les et c'est assez amusant. Comme à chaque fois, t'as l'impression de voir quasi le même film parce que c'est vraiment lissé sur les vieux codes américains des blockbusters début années 2000 en mode ça plaît, on a des bonnes valeurs, il y a le héros qui gagne à la fin et le héros, il faut qu'il soit assisté par un autre héros équivalent qui est chinois pour qu'on prouve que nous aussi on a des héros pareils et tout. Et au bout d'un moment, moi, ça commence à me crisper.
Eh ben, ça
viens du
parler,
côté obscur, Kevin. Viens du côté obscur.
Moi, je pensais que ça allait être un match retour rapide, genre, bah, c'est nul. Au revoir à tous. Mais,
non, parce qu'en fait, il y a des trucs analysés, quoi, dans le.
Non, mais c'est vrai qu'il y a rien.
L'industrie du spectacle.
Il n'y a pas de mise en scène, il n'y a rien. Ben Wheatley, pourtant, qui avait fait des trucs un peu originaux, tu vois. Free Fire, High Rise, c'était un peu des trucs un peu concept où il y avait de la mise en scène, il y avait quand même quelque chose. Là, pour le coup, c'est vraiment Yes Man, quoi.
Ah ouais,
là,
gros Yes Man.
Là, je comprends pas, parce que Wheatley, c'est un mec, c'est pas le plus grand réalisateur du monde, mais c'est un réal, quoi.
Il a des idées.
Il a des idées, il a des propositions, ouais. Et puis souvent, en plus, il a ce côté sale gosse de je tords un petit peu les codes et je les mets à ma façon, de manière à faire passer un petit message un petit peu salé, quoi. Et là, même pas.
Ouais. Il a côté humour noir, totalement, d'habitude, ouais. Et là.
En fait, on pourrait résumer ce film, pour moi, c'est vraiment, tu tapes dans le chat GPT, écris-moi un film avec 3 mégalodons. Une PDG qui nous trahit,
qui boit du thé
et une exploitation minière sur la surface des eaux. Je te jure que le chat GPT il te sort ce film.
Tu veux qu'on teste?
On pourrait tester. Attends, en vrai, je voulais le faire avant de partir, mais j'ai oublié de le faire. Je suis sûr que le site chat GPT te sort le film, quoi.
Il va te dire mais on m'a déjà posé cette question.
J'ai déjà fourni le scénario.
Je demande à ChatGPT, ça va vite, hein. Titre du film, Les Crocs des Abysses.
Ça arrive.
Synopsis, ouais, c'est rigolo comme concept, ça. Synopsis, dans un futur proche, l'humanité a réussi à coloniser les profondeurs marines pour exploiter les précieuses ressources minérales qui se cachent sous les océans. Cependant, cette quête de richesse a un coût environnemental élevé, mettant en danger l'équilibre fragile des écosystèmes marins. Une corporation sans scrupules dirigée par la redoutable Vanessa Thorne...
Elle donne même des blases.
Est à la tête de cette exploitation minière sous-marine, ne se souciant guère des conséquences désastreuses de ses actions. Lors d'une mission de maintenance au fond de l'océan, un groupe de plongeurs découvre par hasard les restes d'une ancienne caverne marine, révélant l'existence d'une espèce préhistorique pensée éteinte depuis des millions d'années. Les mégalodons, des requins géants aux proportions terrifiantes. C'est alors que le héros de notre histoire, Jack Turner, c'est vraiment écrit ça, un ancien plongeur de l'armée au physique imposant est recruté pour enquêter sur cette découverte et ses implications. Pendant ce temps, Vanessa Thorne apprend l'existence des mégalodons et y voit une opportunité de protéger ses opérations minières. Elle décide de capturer les créatures et de les utiliser comme armes pour intimider toute opposition à ses activités illégales. Pour ce faire, elle manipule le scientifique en charge des recherches, le docteur Emily Parker, en utilisant des moyens peu scrupuleux. Jack Turner, accompagné de l'équipe de plongeurs qui a fait la découverte, se lance dans une course contre la montre pour sauver ses mégalodons et empêcher Vanessa Thorne de les utiliser à des fins destructrices. Au fil de l'aventure, Jack se rapproche du docteur Emily Parker qui réalise la véritable nature des actions de Thorne et décide de se ranger du côté de la justice. Le film culmine dans un affrontement épique entre les mégalodons libérés, la machination de Thorn, et les héros déterminés à sauver les profondeurs marines. Les mégalodons, désormais libres, jouent un rôle crucial en rétablissant l'équilibre écologique sous-marin, en mettant fin aux opérations minières destructrices.
Et ben, tu sais quoi, j'aurais préféré voir ce film.
Ça a l'air vachement mieux.
J'aurais préféré voir ce film.
Et il y a même une petite critique à la fin. Les Crocs des Abysses est une aventure palpitante et qui mélange action, suspense et enjeux environnementaux tout en explorant la relation complexe entre l'homme et la nature et les conséquences de l'avidité sans limite.
C'est vachement mieux.
Et du coup, l'idée, c'est rigolo qu'il te propose de mettre les mégalodons en mode espèce à libérer. Et allié.
Et en mode, il les protège et tout. C'est vachement mieux que de les buter finalement. Parce que en vrai,
tu vois, finalement, écrire un film, c'est pas si difficile.
Voilà, bah, ChatGPT, écoute. Enfin, plutôt les gars de Hollywood, là, et la production chinoise CMC, je crois, ça s'appelle. Écoutez, peut-être qu'il fallait passer par ChatGPT en fait. Hein, c'était
je sais pas
tout
si c'est un truc à conseiller en ce moment vis-à-vis d'Hollywood.
Non, mais évidemment, évidemment. On rit cyniquement. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Quoi dire de plus?
Oui, oui.
En vrai,
c'est dommage que pour 120 millions, t'aies pas réussi à faire un film marrant.
Bon, en vrai, moi, je me suis marré, mais voilà, parce que c'est nul et
oui,
parce qu'il y avait rien d'autre à faire.
Tu t'es marré de façon sporadique.
C'était rare, quoi.
Une ou deux fois, de
ouais,
temps en temps.
J'ai pas ri aux éclats comme un babouliné chez Fast and Furious, tu vois. C'est...
Babouliné.
Au moins, en termes d'action, Fast and Furious, t'en mets plus dans la gueule. Voilà, bon, la presse, qu'est-ce qu'elle en a pensé? Ça, je suis curieux de savoir.
La revue de presse,
Kevin va nous en parler, mais je veux faire le petit point box-office, parce que ça y est, moi j'aime bien faire ça. Avant, il s'est assis dans son fauteuil. Non, mais c'est juste pour dire que le film cartonne en salle, hein, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, ça a dépassé le million d'entrées et ça continue de monter doucement, quoi.
Ils ont fait une bonne couverture publicitaire, je trouve, pour le film.
Quand même, ouais, il y avait.
Ils sont sortis les bandes annonces au bon moment. Ils ont fait des
affiches avec le chien.
Ouais, ils ont bien géré leur aspect marketing.
Mais qu'est-ce que la presse en a pensé? C'est ça qu'on veut savoir, nous.
Eh ben, la presse en a pensé peu de bien. Ah, et d'ailleurs, bah, à tel point que ça va être une revue de presse très courte parce que peu de journaux ont décidé de se déplacer pour faire la critique de deux films. Du coup, j'ai assez peu de critiques et. Les journaux qui restent sont des journaux auxquels je n'ai pas accès parce que je n'y suis pas abonné. Et donc, je vous lirai les phrases qu'il y a sur Allociné, bien sûr. Mais d'abord, les notes. Rotten Tomatoes a donné la note de 30 sur 100. Une énorme note.
Wow, bien pourri.
C'est un 3 sur 10, un 6 sur 20, bien sûr. Metacritic, 40.
C'est mieux, mais c'est pas ouf.
C'est pas ouf. Et Allociné, donc nous, en France, on a une moyenne de 1,1.
Aïe. Oh là là,
1,9.
Aïe aïe aïe, même pas 2 quoi.
1,9, même pas 2.
Loser.
À ça du 2. Ah et on va commencer par la critique d'écran large, nos amis d'écran large. Excusez-moi, j'ai un problème d'ordinateur, mais oui, c'est réglé. La stupidité revendiquée de En autre et trouble aurait très bien pu en faire le divertissement décérébré de l'été avec son Jason Statham qui ne desserre pas les dents pendant 1h50 et avec ses idées absurdes. Du moins si ce choix ne le dispensait pas de s'occuper de la matière première de n'importe quel film, la mise en scène.
Ah bah oui, on est d'accord.
Car en l'état, c'est elle qui est très trouble. Rire forcé entre parenthèses.
Mouaf, mouaf.
Au mieux, elle est d'une fainéantise ahurissante, refusant de ménager le moindre suspense aux moments supposés les plus cruciaux, même si aucun héros ne meurt passé la première demi-heure, rassurez-vous. Au pire, elle est purement et simplement inexistante, outre quelques images rigolotes, le point de vue de la mâchoire, donc c'est ce fameux point de vue dans
oui,
la gueule du requin
ça.
Où tu le voyais gober, on n'en a pas parlé dans la critique, mais on le voyait gober des gens. Toutes sans exception visibles dans la bande-annonce. Donc les scènes. Combinée à un montage plus qu'approximatif, pas foutu de raccorder à peu près logiquement deux plans, elle parvient à perdre son spectateur dans ses rares décors. On frise l'exploit.
Ouais, c'est vrai que c'est super brouillon au montage. Quoi. Les scènes d'action, tu captes rien.
Oui, oui.
C'est ce qu'on disait, c'est ils n'ont même pas fait l'effort de rendre ça divertissant. Quoi.
Bon, pas de mise en scène, pas de montage, pas de palais.
Le point. À la suite du calamiteux En eau trouble sorti en 2018, En autre et trouble de Ben Whitley perpétue ses traditions du succès d'annul des Dents de la Mer. Même si l'on note un certain progrès par rapport à son minable prédécesseur, pas de quoi non plus lui décerner l'aileron d'or. Certes, les fans de Jason Statham plongeront encore dans l'arnaque, d'autres spectateurs applaudiront aux rares plans excitants sur les mégalodons en images de synthèse, mais globalement, En autre et trouble se noie dans le grand bassin des bousasses maritimes.
Je ne suis pas tellement d'accord avec le sens par lequel ils prennent le truc en disant que c'est un peu mieux que le précédent.
Oui,
parce
pour moi, le premier était quand même
bien sûr.
Plus divertissant.
On conseille plutôt le premier.
Ouais. Bah, déjà, c'était surprenant le premier. Et puis, je crois que c'était un peu plus trash hein, que
bien sûr
que cette merde.
Les fiches du cinéma. Mélange de Jurassic Park et des Dents de la Mer.
Oh,
on se calme tout de suite. Tout de suite.
C'est une analyse.
C'est tout de suite.
C'est le nouveau bijou du nouvel Hollywood.
C'est la leur. Mélange de Jurassic Park et des Dents de la Mer, il n'y a pas vraiment de fond à ces eaux troubles qui se noient dans un désordre de péripéties abracadabrantes. Jason Statham s'éclate néanmoins dans cette parodie qui comblera les amateurs du premier opus.
C'est vrai que le Jason, il a l'air de se marrer, quoi. Et il vieillit bien, franchement. Pour un mec qui a pas loin de la soixantaine.
Ah bah
non,
ouais, carrément. Ouais.
Ah ouais,
bah c'est Jason. Il est bien conservé.
Et maintenant, les petites phrases hallucinées des magazines auxquelles je n'ai pas accès.
Paierai pas l'abonnement.
Et donc, je ne paie pas un moment. Écran large. Un remake à plusieurs dizaines de millions de dollars de Mega Shark versus Giant Octopus. Vous n'en rêviez pas. Ils l'ont fait quand même.
Elle est bien.
Jolie.
Elle est bien, celle-là.
L'écran fantastique nous parle d'un nanar de grande classe. C'est un nanar de grande classe, c'est même pas une phrase qu'ils ont isolée, hallucinée, c'est un truc de fou. Le monde, toute ressemblance avec le formidable The Host de Bong Joon-ho, auquel il est difficile de ne pas penser.
Oh là là.
C'est une analyse. C'est une analyse.
Il y a un tentacule.
C'est une analyse.
Ah, moi, j'y avais pas pensé, tu vois.
Toute ressemblance avec le formidable The Host ne serait même pas accidentelle, puisqu'elle était inexistante.
Ah.
Reconnaissons toutefois au film de Ben Whitley quelques moments inspirés.
Oui.
Le point.
Quand il inspire avec ses narines.
J'ai déjà fait le point, non ?
Le point, j'ai déjà fait. Parce qu'en fait, ça, j'y avais accès. Par contre, je n'avais pas accès à Télérama. Télérama nous dit « Malgré cette surenchère, cette suite peine à être spectaculaire. »
Ok.
Point. La presse américaine, maintenant. Mega the Trench.
Continuez wow. Les mecs, continuez.
Thank you, Stephen.
Oh yeah, Jason Statham is so handsome.
C'est ça?
Yeah.
C'est juste ça? Ok.
Yeah, of course, yeah. Non, je n'ai pas pris les critiques américaines. Les critiques chinoises maintenant. Non, je ne le ferai pas.
Non, on s'arrête là.
On s'arrête là.
Ok, bah ça y est, on a fait le tour.
Oui. Bah, personne n'a voulu le voir, le film.
Personne...
Je suis désolé.
Bah oui, bah, déjà, c'est les vacances. Et puis, je pense qu'il y avait d'autres films plus croustillants.
Oh, croustillants, pourtant, là, ça mord.
Ouais. Bon,
ce
bah.
Ce film manquait de mordant.
La presse et nous sommes d'accord, pour le coup.
Il y a d'autres choses à aller voir, quoi.
Ouais, il y a plein d'autres choses à aller voir. Moi, je suis allé voir le Tortue Ninja.
C'était un film d'animation,
c'est sympa.
Ouais, c'était cool, ouais. Ouais. En vrai, c'est cool, ça respecte bien.
Le lore,
et puis ça prend pas trop pour des cons le comics d'origine, quoi. Donc, ouais, c'est bien, et puis l'animation est top, quoi. Après, faut aimer. C'est moins lisse côté animé que Spider-Man, tu vois, parce que c'est le même style d'animation, c'est un peu plus brouillon, un peu plus sketch, là. Mais ça va, stylé. Puis violent comme il faut, j'aime bien.
Très bien. Et ben, nous sommes allés voir en colloque Reality.
Oui.
Qui est un film qu'on vous conseille
également.
Avec Sweeney.
Oui.
Avec une bonne annonce très mystérieuse.
Très mystérieuse, et on ne vous dira pas de quoi ça parle. Parce que j'ai vu le film sans savoir de quoi ça parle, et c'est très très bien.
Ok, bah voilà.
Et aussi, on avait vu Yannick de Dupieux, et ça, c'était très bien.
Ah putain, faut que j'aille voir.
Oui, on m'a dit que c'était vraiment bien.
Très sympa.
En plus, ça dure à peine une heure.
1h15.
C'est bien.
Faut que j'aille voir. Ok, ben merci pour ces recommandations. Merci Kevin pour la presse.
Mais de rien.
N'allez pas voir The Meg, hein. Attendez qu'ils sortent sur les plateformes. Réchauffez un petit popcorn.
Avec du métro aussi, hein, ça peut se
passer. on ne conseille pas ça.
On ne conseillera jamais. Pour ça.
Voilà, c'était notre petit match retour sur un autre trouble de Ben Whitley, qui n'a pas fait du Ben Whitley, mais qui a fait du Yes Man pour le coup. On va déjà se dire au revoir. Eh oui, c'était l'avant-dernier.
Ben Whitley, c'est Ben Whitley.
C'est un...
Whitley.
Ok. Allez. You see, mystery is an intellectual process. But suspense is essentially an emotion. Voilà, c'était le match retour du pas ouf, pas cool, pas top. Hein. On est au très trouble.
Beaucoup trop flappy.
Voilà, je pense que ça a basculé à partir du moment où ils ont enlevé les parenthèses. De toute façon.
En eau stagnante, quoi. Ah,
ça a coulé, c'est très.
Très mauvais augure.
Laissez ça au fond, ne le remontez pas. C'était l'avant-dernier match retour. Il nous en reste un encore à faire, car nous allons match retourner. La Palme d'Or.
Ah oui, on espère que ça sera mieux.
Ça devrait forcément être
Golden Palme ou Face Palme.
La chute, on aura le coup.
Voilà, donc ce sera notre dernier match retour. Ce sera Anatomie d'une chute de Justine Trier, qui est la Palme d'Or 2023. Et vous trouverez l'épisode BA, où on se fera des films autour de cette bande-annonce. Ce qui suivra celui-là, normalement, s'il n'y a pas un autre épisode qui vient se faire recaler, je sais pas. Parce qu'on a quand même des choses dans les tiroirs qui sont pas encore sorties, qui ont été enregistrées il y a longtemps. Mais il va falloir qu'on... Maintenant, tout doit disparaître avant de partir. Donc voilà, on va faire un peu les fonds de tiroir. Histoire de vous donner quand même un peu du contenu, hein. On est créateur de contenu, n'oublions pas. Voilà, bon, ben merci à vous d'avoir été là.
Merci à toi d'avoir été là également.
De Season 4 Team.
Merci à tout le monde, bien sûr.
Au revoir à toutes et tous.
Bisous.
Des bisous.
Au revoir.
Ciao.
Au revoir.
Arrivederci.
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 Arrivederci.